L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Avant de retrouver un petit focus sur Auchan en Chine. Et oui, pour parler de stratégie d'e-commerce d'Auchan en Chine. Avant tout cela, c'est notre passion selon Sanette. Et avec vous, Mathilde Christiani, direction la Scandinavie. On va découvrir avec vous l'écosystème d'un événement qui s'appelle Arctic 15.
Qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème start-up en Scandinavie? Bien, beaucoup de choses. On avait commencé à aborder le sujet il y a quelques semaines avec Alex Farset de Startup Bootcamp pour le Danemark. Eh bien, on va continuer la conversation parce que je suis à Arctic 15, qui est en fait un événement là à Helsinki, qui rassemble toutes ces start-up des pays scandinaves. Et je suis de nouveau avec Alex Farset. Bonjour.
Bonjour.
Et avec Romain Barré de Arctic Startup. Bonjour Romain.
Bonjour.
Donc là, on est en plein dans l'event et de toutes les startups qui sont présentes, de toutes les sessions qu'il y a sur scène, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux grandes tendances qui se distinguent. C'est la santé et l'énergie. Est-ce que vraiment, dans les pays scandinaves, on voit émerger beaucoup de startups qui travaillent sur ce secteur, Romain ?
Alors en ce moment, oui, sur Helsinki et sur la Finlande en général, il y a beaucoup de startups qui se lancent dans le health track et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accueille dans Arctic 15, le Digital Health Track en collaboration avec la Citra. L'énergie aussi, en ce moment, beaucoup de startups commencent à travailler avec l'énergie pour trouver des moyens d'utiliser des énergies renouvelables aux échelles des villes ou peut-être même du pays pour certaines.
Voilà pour la Finlande. Alex, est-ce que c'est aussi le cas, c'est aussi des tendances dans les autres pays?
Oui, en tout cas au Danemark, c'est déjà un pays qui est assez progressiste là-dessus. Je crois que c'est 40% de l'énergie du pays qui est renouvelable. Donc ils sont déjà très en avance, même au niveau gouvernement. Et puis tout ça, ça aspire des startups qui viennent derrière. Et puis de toute façon, c'est des pays relativement avancés et ouverts sur ces questions-là. On n'est pas dans le Bible Belt des États-Unis. Donc il y a des gens compris qu'il y a un challenge et aussi des opportunités sur les changements du climat.
Et donc aussi des business models.
Bien sûr. Donc le programme de Startup Bootcamp de Berlin, c'est le thème, c'est Smart Transportation and Energy. Donc l'énergie, la mobilité intelligente et l'énergie. Et tout ça, ça se recoupe énormément parce que, par exemple, un petit chiffre, une voiture en ville, c'est jusqu'à, je crois, 40% de la consommation, c'est chercher un parking. Donc ça, c'est un problème de big data, en fait. C'est juste où est-ce qu'il y a une place. Et tout ça se recoupe, la big data, les applis, les smartphones, les réseaux télécoms, tout ça, ça ouvre des nouvelles opportunités et de nouveaux business models.
Est-ce qu'il y a un pays qui est leader dans l'énergie?
En fait, le deuxième marché par habitant pour Tesla, c'est la Norvège. C'est un pays très riche en énergie, donc ils ont un fonds énorme, ils se posent des tas de questions sur comment utiliser ces ressources. En Norvège, si on achète une Tesla, on ne paye pas d'impôt sur la voiture, donc ils incentivisent les consommateurs et il y a une densité de Tesla partout, donc des voitures électriques, même pour un pays très riche en pétrole. Donc ils commencent vraiment à réfléchir à l'avenir à temps.
Du coup, est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour aider les entrepreneurs à investir ces domaines?
Alors nous, en Finlande, là, il y a quelque chose qui commence à se passer, qui commence à monter de plus en plus, c'est les reverse pitching, c'est-à-dire que maintenant, les grosses compagnies, comme par exemple Hélène, qui est l'équivalent de l'EDF français, nous a demandé de réunir des startups pour que ce soit eux qui demandent aux startups de créer des produits pour eux, c'est-à-dire des produits qui leur permettront d'économiser l'énergie, de mieux gérer son électricité à la maison. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience, même maintenant, par les grosses entreprises, que les startups peuvent les aider dans ces secteurs-là.
Et dans les autres pays, Alex ?
Oui, alors en fait, nous, on a Startup Bootcamp, c'est un accélérateur. On a 10 programmes dans 8 villes et 9 des 10 programmes ont un thème particulier. Et on est passé en 2-3 ans d'un modèle où on était financé par des angels, des investisseurs privés. Et maintenant, on est surtout en majorité financé par des grosses boîtes, des entreprises. Et tout le monde a le même objectif, c'est comment s'ouvrir à l'innovation externe. Et le cliché de deux bonhommes dans un garage qui vont nous challenger, c'est vrai maintenant. Et donc, ils viennent vers nous, ils viennent vers d'autres. Et c'est pour ça qu'en bas, ici, Arctic 15, on voit IBM, on voit d'autres qui sont là, parce que pas forcément pour vendre des produits IBM, mais surtout pour écouter et dire où sont les business models innovants pour nous aussi. Et il y a des modèles, des ponts qui se créent entre les deux mondes.
Est-ce que vous avez d'autres exemples d'innovation ouverte et de collaboration entre grands groupes et start-up, hors santé et énergie peut-être, Romain ?
Alors sur Helsinki, il y a la chaîne de télévision Yle, qui est la plus grande chaîne de télévision nationale, qui a décidé d'ouvrir tous ses data, donc une somme incommensurable de data, aux start-up pour leur demander de créer des programmes afin de reconquérir des auditeurs. En fait, ils se sont aperçus que les gens ne regardent plus la télé de moins en moins et ils se retrouvent dans une problématique financière qui est nous perdons des gens, donc nous perdons de l'argent, donc nous ne pouvons plus faire de programmes. Et ils commencent à demander aux startups de les aider à reconquérir des auditeurs, que ce soit par des applications qui permettront aux gens d'avoir un meilleur rapport avec la télé, c'est-à-dire avoir directement un choix de programme qui va s'afficher, donc les personnes n'ont pas regardé la télé tout le temps, ça sera tout de suite sur leur téléphone, voilà, à 18h30, il y a cette émission que vous aimez bien, parce que nous avons remarqué que vous suiviez tel et tel genre d'émission. Et ils cherchent par ce biais-là avec les startups à recréer, à regagner de la clientèle pour reprendre une place par rapport à l'Internet.
Donc une prise de conscience du secteur privé. Est-ce que c'est pareil dans le secteur public ou est-ce qu'on tâtonne encore, alors en Finlande mais également dans les autres pays, Alex?
Alors évidemment ça va moins vite, mais il y a un très bel exemple au Danemark, c'est une municipalité qui s'appelle Albertslund, c'est une banlieue de Copenhague où il y a un maire qui a décidé de pas suivre le chemin habituel ou dire on va faire une appel d'offres, ça met 3 ans, etc. Et ils ont décidé d'être une smart city et donc ils ont ouvert, il y a un laboratoire pour tester les choses, ils ont ouvert les lampadaires, l'éclairage public sur certains axes. Et il y a 16 startups qui essayent leur système différent sur ces lampadaires. Donc très rapidement, très ouvert. Donc par exemple, lampadaire peut voir qu'un cycliste arrive et ajuster la lumière ou selon l'heure du jour ou de la nuit.
Mais du coup, ce sont des services qui sont utilisables ou là justement c'est encore un laboratoire et donc encore des prototypes qui sont testés?
C'est laboratoire, donc c'est d'ouvrir et de trouver des solutions rapides. Au Danemark, ça va très vite. Si quelque chose marche bien, tous ces gens parlent. Et s'il y a des économies à faire ou des services à améliorer, ça va très vite. Mais c'est simplement de dire on va pas tester sur un programme de 3 ans qui est très lent. Donc c'est un petit peu essayer d'aller plus vite à la vitesse des startups, ou en tout cas essayer de se rapprocher.
Est-ce qu'il y a un état d'esprit scandinave qui facilite toute cette ouverture?
Je crois qu'il y a plus d'ouverture naturellement, mais c'est quand même géopolitiquement des petits pays qui doivent forcément être ouverts vers l'extérieur, qui savent qu'il n'y a pas un gros marché interne, donc ils sont internationaux, cosmopolite, et puis il y a aussi une grande culture d'innovation. Il y a 50 ans ou 40 ans au Danemark, en tout cas, c'était le design, hein, les meubles, il y a des architectes fantastiques, il y a eu des très belles choses, et maintenant ça se retrouve plus du côté industriel. Mais c'est sûr qu'il y a une culture qui remonte même aux Vikings. C'est un pays, ça c'est des pays d'aventuriers qui construisaient des petits bateaux en bois et allaient jusqu'aux États-Unis.
L'esprit aventurier en Finlande dans l'open data, est-ce qu'on le ressent aussi, Romain?
Oui, mais c'est un peu la même chose. C'est vrai que la Finlande est un pays qui représente finalement que 5 millions de personnes. Le marché interne est petit, donc il y a besoin de se développer, il y a besoin d'avoir cet esprit de conquête du monde aussi. Et c'est vrai que ça a toujours été porté par des entreprises comme Nokia, par exemple, qui a commencé par fabriquer des bottes en caoutchouc et des roues pour tracteurs, et qui a été ce qu'on connaît au niveau du téléphone mobile, avec d'autres réussites comme Rovio, etc. Donc le jeu vidéo a beaucoup pris pendant un moment, et maintenant c'est en train de s'ouvrir sur plein de domaines différents, c'est très intéressant.
Et est-ce qu'en Finlande, il y a des exemples d'open data? J'ai discuté avec Jari Nieminen qui a dirigé un projet en fait lié à la santé dans une ville qui s'appelle Hämeenlinna, où il est possible maintenant d'accéder, enfin de remplir un questionnaire sur son état de santé. Ça agrège aussi avec toutes ses données personnelles et ça permet d'être plus vite connecté avec des praticiens et d'avoir soit des prescriptions en ligne, soit des conseils. Est-ce que voilà, il y a d'autres exemples? Et est-ce que c'est spécifique à la Finlande? Est-ce que c'est plus facile de lancer des projets comme ça?
Oui, alors en effet, c'est vrai qu'en Finlande, déjà tout est connecté. C'est-à-dire chaque personne a un numéro personnel d'identification, et sans ce numéro, par contre, on ne fait rien. Et en même temps, on ne fait rien et on fait tout. C'est-à-dire que maintenant, pour ouvrir sa ligne d'électricité, on ne va plus au magasin, on doit l'ouvrir par internet forcément. Pour la banque, c'est la même chose. Pour tous les services, en fait, maintenant on a besoin de ce numéro d'identification parce que tous les services sont connectés entre eux. Donc effectivement, au niveau de la santé, tous les rendez-vous maintenant se prennent aussi par internet, et ça m'étonne pas qu'ils développent ça au niveau d'une ville comme Hämeenlinna, qui est un peu plus petite quand même qu'Helsinki, mais ça va arriver sûrement d'ici peu ici. Ouais.
Je voudrais revenir sur l'aspect culturel, parce que donc justement je discute avec Jari Nieminen et je m'étonnais du fait que éventuellement un patient peut dire n'importe quoi comme symptôme et avoir sa prescription quand même qui lui est délivrée. Et il m'expliquait qu'il y avait une grande honnêteté au niveau des individus qui n'allaient pas commencer à trafiquer ou à mentir sur leur pathologie. Est-ce que c'est quelque chose effectivement qui fait partie de la culture et qui permet de développer peut-être plus rapidement ce type de service, Alex?
Oui, moi je suis parisien, marié à une Danoise. Si on s'approche d'un feu rouge comme piéton, ma femme attend même s'il n'y a aucune voiture à 100 mètres. Et ça, on s'est beaucoup battu là-dessus, en fait. Donc, je plaisante, mais même sur les résultats de l'OCDE et de la Banque mondiale, tout ça, c'est les pays les moins corrompus du monde. Donc, il y a une espèce d'homogénéité, d'honnêteté publique qui fait que ce sont des pays, par exemple, où les gens acceptent de payer 60-65% d'impôts, de remettre dans le pot commun, parce qu'il y a une confiance dans le système, il y a une confiance dans l'autre, de dire mes ressources vont être bien utilisées.
Et c'est un accélérateur d'innovation?
En tout cas, si c'est pour faciliter la confiance entre grands groupes, services publics et l'individu, évidemment, ça, la confiance va plus vite, puisque de toute façon, elle fait partie de la culture.
Alex, vous dites que ce sont des pays justement qui sont aventuriers et qui sont assez en avance. Les écosystèmes start-up, on en parle de plus en plus depuis 4 ou 5 ans. Est-ce que, en quelques années, vous avez aussi constaté une émulation particulière?
Oui, alors en fait, avec ma famille, on est allé vivre à Berlin pour lancer Startup Bootcamp à Berlin en 2012. On est rentré à Noël. Et là, en 3 ans, 2 ans et demi, j'ai vu, même à Copenhague, qui était relativement sophistiqué, il y avait quand même pas mal d'options, une explosion de coworking space, il y a du crowdfunding, la semaine dernière, c'était Tech Barbecue. Donc le Tech Barbecue s'est tenu à Nouvel Opéra de Copenhague, qui est l'équivalent du Philharmonique de Paris, un lieu extraordinaire avec 700 places complètement remplies. Et ça, il y a 5 ans ou il y a 4 ans, c'était impossible. On était une trentaine de personnes à faire un petit meet-up les vendredis. Donc il y a vraiment une densité. Puis, il y a quelque chose de culturel avec les jeunes. C'est un petit peu cool d'être entrepreneur. On n'est pas obligé de finir son diplôme et d'aller vers McKinsey ou IBM ou autre. Donc il y a un phénomène comme ça et une densité d'argent, d'entrepreneurs, d'événements qui fait que tout ça s'emballe et c'est positif.
Merci à tous les deux, Alex Farcet de Startup Bootcamp et Romain Barré de Arctic Startup. Merci.
Mathilde Christiani, merci. On revient dans un instant, la suite de cet atelier numérique. Après la Scandinavie, ce sera l'Asie avec Renaud Dorbaro. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. On va dans un instant retrouver notre World Tour, mais auparavant, direction l'Asie, vous le savez, avec notre rendez-vous en compagnie de Renaud Dorbaro. Et Renaud, cette semaine, vous avez interviewé le patron Taïwan et Chine d'Auchan à propos de la stratégie e-commerce d'Auchan.
Bonjour à tous. Pour cet envers, nous allons parler de grande distribution. On va parler d'épicerie en ligne avec un spécialiste, Bruno Mercier, qui est chairman of the board de Fields et aussi, surtout, CEO de Sun Art Retail.
Sun Art Retail Group, qui est en fait la maison mère des entreprises Auchan et Artemart en Chine.
Bruno Mercier, vous venez tout juste de mettre de l'argent dans Fields. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la logique derrière tout ça?
Le marché du e-commerce en Chine est extrêmement dynamique et il nous a semblé que ne pas être sur ce marché pour un retailer, ce n'était tout simplement pas possible. Et donc on prend un certain nombre d'initiatives pour avoir une présence. Nous avons un site entre guillemets mass market qui s'adresse à la population chinoise dans son ensemble qui s'appelle fenyu.com. Et puis donc nous avons vu cette opportunité d'investir dans fils.com qui est un site qui est plutôt présent sur un segment de clientèle un peu plus premium, on va dire, d'expatriés, de Chinois aisés, principalement aujourd'hui à Shanghai, un petit peu en Chine de l'Est, mais potentiellement dans tout le pays.
Et alors, quelle est l'expertise que vous comptez leur apporter et quelle est l'expertise qu'ils pourraient vous apporter?
L'expertise qu'ils ont, c'est en fait comment choisir, comment sélectionner des produits donc alimentaires de qualité, ensuite les mettre donc en ligne, un site particulièrement agréable à voir, et puis donc comment les livrer aux clients et assurer derrière un bon service clientèle. Où donc SunArt et Auchan entre autres, ce qu'on va leur amener, c'est notre puissance d'achat puisqu'on pèse 100 milliards de renminbi en Chine. Donc sur un certain nombre de marques et de produits, on sait qu'on a des recoupements dans nos gammes et aujourd'hui Fields étant une petite entreprise n'achetait pas très bien, donc va pouvoir mieux acheter et donc on va pouvoir restituer un peu de valeur à nos clients et donc peut-être ensuite développer notre clientèle. Nous avons aussi développé des systèmes informatiques très solides, robustes, simples, qui fonctionnent très très bien. Donc Fields va pouvoir en bénéficier en particulier sur la partie amont, l'ERP. Et il y aura sans doute aussi donc des synergies en termes de logistique où sur tous les produits achetés en commun, on va pouvoir livrer.
Qu'est-ce qui coûte le plus cher quand on fait du e-commerce en Chine? C'est la partie logistique, la partie stockage, la partie livraison aux consommateurs, ce qu'on appelle le last mile.
Ce qui coûte, c'est toujours relatif. Le last mile coûte de l'argent. Ceci étant dit, quand on compare les coûts de livraison de la Chine par rapport à l'Europe, ça n'a rien à voir, hein, puisque en Chine, on parle de 10 à 20 renminbi, tout compris, alors qu'en Europe, on est plutôt à 15-20 euros pour une livraison. Hein. Ceci étant dit, dans le cas de la Chine, où le panier est inférieur, ça pèse quand même. Le deuxième poste, en général, qui coûte très cher, c'est le coût d'acquisition du client. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, que Fields nous a intéressés, parce qu'à la différence des gros sites généralistes, comme Yiraodian, Jingtong, etc., qui ont des coûts d'acquisition de clients assez élevés, Fields, par son approche assez low-key, bouche à oreille, recommandations, a su recruter une base importante de clients sans dépenser des budgets de marketing fous.
Walmart a pris 50% de Yiraodian, qui est aussi un épicier en ligne. Est-ce qu'on peut voir ça comme un équivalent?
Je pense que ce serait un petit peu présomptueux aujourd'hui, hein, puisque Yiraodian doit faire aux environs de 20 milliards de chiffre d'affaires, de renminbi, alors que Fields aujourd'hui fait moins que l'un de nos magasins. Hein. Nos magasins, ils font environ 250 millions.
Le e-commerce en Chine, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui impacte vos ventes en Chine?
Je pense que e-commerce y ronge un petit peu. Hein. Voilà, je pense pas qu'aujourd'hui, il faut le regarder catégorie par catégorie, les impacts sur les différentes catégories de produits sont pas les mêmes. Et fait que, par exemple, donc l'électroménager qui a été la première catégorie de produits qui a été développée sur e-commerce, évidemment les impacts sont plus forts que par exemple sur le produit frais qui est la dernière catégorie impactée. Ceci étant dit, compte tenu des tombereaux d'argent qui se déversent dans ce métier, compte tenu du nombre de compagnies, de start-up qui démarrent, il est évident que nous allons être impactés. Et donc c'est à nous de nous organiser pour faire en sorte que, un, nous soyons présents sur le online, deux, que nous développons tous les atouts qu'ont nos magasins vis-à-vis des clients. Hein. Il y a quand même toute une théâtralisation, la possibilité de goûter des produits en magasin qu'on n'a pas forcément en online. Et trois, développer aussi tout ce qu'on appelle donc le O2O entre nos magasins et notre présence online.
Forcément, je vais vous poser la question de WeChat. Est-ce que vous avez une stratégie WeChat qui est de l'ordre de, on va finir à l'intérieur de WeChat comme j'ai dit, ou est-ce que c'est plutôt de la communication? Comment vous voyez ça, vous?
Alors, finir à l'intérieur de WeChat, vu comme vous le dites, ça apparemment on se fait digérer par WeChat, donc c'est pas vraiment notre ambition. Nous, on a l'intention de travailler à WeChat comme d'autres le font. Et donc vous avez peut-être vu que nous avons déjà une application WeChat, que nous voulons développer WeChat Store. Donc bien entendu, on va être présent, mais ce ne sera pas le seul média par lequel nous serons présents sur le web. Nous avons notre site PC, nous avons notre application Android, nous avons notre application iPhone. Et donc nous voulons bénéficier de toutes les opportunités, toutes les routes en fait qui permettent d'atteindre le client. Et WeChat est une des opportunités, évidemment.
On voit que Amazon a ouvert un store à l'intérieur de Tmall. C'est un peu comme si Price Minister ouvrait à l'intérieur de la Fnac. Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne, ou est-ce que vous dites finalement ça a sa logique, c'est du trafic?
Non, ça ne nous étonne pas particulièrement. Et d'ailleurs, en fait, le groupe Sonart en fait a déjà une boutique sur Tmall, puisque nous vendons une marque qui s'appelle Cherokee. Et cette boutique a déjà depuis, je pense, au moins 2 ans, en fait, on a déjà un magasin sur Tmall. Donc, on n'est pas étranger au phénomène Tmall. On sait que c'est souvent un excellent vecteur pour faire connaître une marque aux clients. Et donc, aujourd'hui, on s'interdit pas de penser aussi à avoir une présence sur Tmall sous une forme ou une autre.
Écoutez, merci beaucoup Bruno Mercier. Je rappelle, vous êtes CEO de Sonart Retail et vous êtes maintenant Chairman of the Board de Fields China. Merci.
Renaud-Edouard Barrault, merci. Allez, notre World Tour maintenant sur BFM Business dans cet atelier. Direction une très jolie ville. Nous allons au Prague. Découvrir ces startups avec vous, Lila Megraoua, notre invitée.
Tout à fait, tout à fait. On va découvrir ces startups avec Cédric Malou. Vous êtes directeur général de l'accélérateur startup Yard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, racontez-nous un peu qu'est-ce que c'est déjà tout d'abord startup Yard.
Alors, startup Yard, c'est un accélérateur de startups qui existe depuis 5 ans maintenant ici à Prague. On a accéléré aujourd'hui 29 compagnies en tout. On en a sorti, on est sorti de 4. Mm-hmm. On en a perdu 7. Donc c'est un bon ratio. Et moi, je suis directeur de ce start-up accélérateur depuis l'année dernière. Mm-hmm. Je l'ai un peu transformé en un accélérateur européen, parce qu'avant c'était plutôt un accélérateur tchéco-tchèque. Mm-hmm. Et l'année dernière, on avait eu 60 candidats. Cette année, on a eu 240 candidats. Donc on est très très content des progrès qu'on fait. Et en fait, on est en train d'essayer de se positionner un petit peu comme un hub technologique pour des startups
d'Europe centrale.
D'Europe centrale, absolument.
Alors dites-nous un peu, qu'est-ce qui attire les startups à Prague ?
Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le côté que les universités tchèques forment de très 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 bons scientifiques. Mmh. Et on trouve effectivement beaucoup de sociétés qui externalisent leur développement ici en République tchèque, que ce soit à Prague ou dans d'autres villes. Ensuite, il y a également la qualité de vie à Prague, qui est une qualité de vie qui est vraiment exceptionnelle. La République tchèque fait et de tous les pays anciens du bloc de l'Est celui qui a une qualité de vie la plus haute. Donc vous avez d'un côté des gens qui sont très bien éduqués, une très bonne éducation technique, de l'autre côté une qualité de vie qui est vraiment très très bonne. Donc tout ça font un très bon environnement pour les startups.
Vous diriez qu'il y a une culture IT sur place?
Il y a une énorme culture IT. Il y a beaucoup de grosses sociétés que vous connaissez, par exemple des sociétés d'antivirus comme Avast ou AVG ou ESET, qui sont des sociétés tchèques et ou slovaques. Il y a ensuite pas mal de sociétés très connues qui viennent s'installer ici à Prague, justement pour utiliser la main d'œuvre très très bonne, mais pas chère non plus. Hein, la vie en République tchèque est vraiment vraiment pas chère comparée à la vie chez vous dans l'Europe de l'Ouest, comme on vous appelle. Donc c'est vraiment un environnement parfait. Et puis les gens sont très disciplinés, ils travaillent bien, ils se plaignent pas trop. Et ils sont surtout très bons. Donc tout ça fait qu'on a beaucoup d'équipes ici de développement à Prague.
Bon, très bien, ça donne envie de venir vous voir.
Il faut venir voir Prague, et pas que pour un week-end.
En effet.
Est-ce qu'il y a des secteurs parmi toutes ces startups qui se détachent ? Est-ce que il va y avoir davantage de startups dans le secteur de la sécurité, par exemple ?
Alors, effectivement, donc je parlais des antivirus, Avast, AVG. Comme on a des très très bons scientifiques, on va surtout trouver des startups qui font des travaux très compliqués, enfin qui travaillent dans des domaines très compliqués. Il y a une société récemment qui s'appelle Cognitive Security qui applique des techniques d'intelligence artificielle sur la sécurité des réseaux, qui vient juste d'être achetée il y a 2 mois par Cisco pour plusieurs dizaines de millions de dollars. On va trouver surtout des sociétés vraiment vraiment pointues, en fait. Encore une fois, parce que les développeurs sont très bons. Yeah. Ensuite, vous avez également pas mal de sociétés de jeux. Ouais. Moi-même, je suis l'ancien CEO d'une société de jeux tchèque. Alors ça, c'est un peu moins technique, un peu plus ludique. J'ai pas l'explication, mais il y a une bonne quinzaine de studios de développement de jeux ici en République tchèque.
Et qui font des jeux connus, enfin en tout cas qui rencontrent un gros succès.
Je vais parler pour celle que je dirigeais avant.
Oui.
On avait un jeu qui s'appelait Pool Life Tour, qui est en fait un jeu de billard multiplayer temps réel, qui était parmi les 10 meilleurs jeux sur Facebook en 2011, quand j'ai quitté la société.
D'accord.
Donc, à moins que vous connaissiez ce jeu, vous voyez exactement de quoi je parle. Il y a d'autres jeux comme Mafia. Mm-hmm. Il y a un autre jeu comme Madfinger également, qui sont pas mal. Donc
il y a pas mal de copycat de ce que vous m'expliquiez avant l'émission. Pas mal de clones.
En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on est un peu les parents pauvres du reste de l'Europe. Regardez sur une carte, en fait, vous vous rendrez compte que Prague est très très près de Paris. On est plus près que de Vienne, on est à peu près à la même distance que Berlin. Mais comme on a cette image un peu d'Europe centrale, Europe de l'Est, qui est complètement fausse, les services que vous connaissez tous, que vous avez en France, viennent en dernier chez nous. Donc, ça a pour effet qu'ici, on a pas mal de clones qui se créent, qui d'ailleurs se font racheter très rapidement quand les autres sociétés se réveillent et se rendent compte qu'il y a un marché ici. On a à peu près 10 millions de personnes en République tchèque. Le dernier en date, c'est une société qui livrait de la nourriture à partir des restaurants qui vient de se faire racheter par Delivery Hero, qui est D'accord. un gros groupe allemand que peut-être vous connaissez. Mmh. Donc on a ce phénomène de clones pour servir la communauté locale, mais derrière, après, les grands joueurs arrivent petit à petit.
Très bien.
Ben, merci beaucoup, Cédric. Cédric Malou, je rappelle, vous êtes directeur général de l'accélérateur Startup Yard. Merci.
Voilà.
Merci.
Petit détour par Prague, qui mérite plus qu'un joli week-end, hein, c'est vrai. On revient dans un instant à la suite de cet atelier. On va retrouver la rédaction de zeronet.com et puis après, ce sera le crash test pour conclure. À tout de suite sur BFM Business.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. On va bientôt se dire au revoir, mais auparavant, avant de retrouver le crash test d'Antoine Cyr, il nous a rejoint dans ce studio comme chaque samedi. Allez, plongeons sur le site zeronet.com, le premier site d'actualité en France, avec Éric Le Bourlou, son rédacteur en chef Actu. Bonjour Éric.
Bonjour.
Alors Éric, l'actualité de cette semaine, on va commencer par... Voilà, un classique qu'on évoque régulièrement, c'est Microsoft. Ouais. Microsoft et Windows 10. Microsoft a annoncé pas mal de choses nouvelles concernant Windows 10.
Oui, alors plusieurs choses nouvelles. D'abord, la date de lancement de Windows 10 est officielle. Ça y est, on savait que c'était cet été, mais là, on en sait plus. Ce sera le 29 juillet. Donc, voilà. À partir du 29 juillet, vous pourrez... acheter ou télécharger Windows 10 sur votre ordinateur.
Préparer du Wi-Fi sur la plage.
Hein c'est ça, exactement.
Voilà, c'est ça.
En plein milieu de l'été, Windows 10. Alors, pour ceux qui pourront le télécharger, ils ont peut-être déjà eu une petite nouvelle icône sur leur ordinateur, sur leur barre des tâches. Et en fait, ils peuvent déjà réserver leur copie de Windows 10 parce qu'on sait que Windows 10 sera gratuit pour les gens qui ont une copie légale de Windows 7 ou Windows 8. Donc voilà, ça arrive maintenant. Donc tous les gens qui ont cette version de l'OS peuvent réserver leur Windows 10, déjà.
Bon, alors ça, c'est la première info.
Voilà.
Le 29 juillet, ça va télécharger. Ça, c'est clair.
Exactement.
Tout ça, évidemment, pour que les ordinateurs vendus à la rentrée, donc en septembre, soient installés avec Windows 10.
Exactement. Comme ça, ça permet, effectivement, la rentrée étant vraiment une période forte hein, pour les vendeurs de PC, ça permettra d'avoir des PC, on va dire, avec du 109 à la rentrée pour tous les fabricants. Et ça permettra peut-être de refaire redorer un peu le marché du PC qui a un peu quelques problèmes en ce moment quoi.
D'accord. On a aussi les tarifs de Windows à partir du moment où vous avez un vieux Windows. Voilà. Par exemple, un Windows XP, un Windows Vista.
Exactement. Pour ceux qui
toutes
voudraient
d'ailleurs, si vous avez encore un Windows Vista.
Pour ceux qui voudraient effectivement acheter Windows 10, une version complète, hein, sans si vous n'avez pas Windows 7 ou Windows 8, Microsoft a aussi livré les prix. Alors on s'attendait à ce que ce soit un petit peu moins cher que ça. C'est pas si donné que ça, même si c'est accessible, puisque Windows 10 Home, la version grand public, coûtera 119$. On n'a pas encore le prix en euros, mais 119$. Et la version Pro, donc plus complète, coûtera 199$. Donc ce sont les prix qu'avait pratiqué à peu près Microsoft pour Windows 7 et Vista. Ils n'ont pas énormément baissé les prix, mais on sait tout de même que la plupart des gens l'auront gratuitement via cet outil de mise à jour.
Bon, et alors pour tous ceux qui ont, alors on va le dire doucement, Eric, une version piratée de Windows, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors qu'est-ce qui va se passer ? Ben ils vont aussi.
On n'en connaît aucun parmi les auditeurs de BFM Business. On vient de faire un recensement éclair. Il n'y en a aucun, je crois. Hein.
En tout cas, pour ceux qui ont une version pirate de Windows, ils pourront passer aussi à Windows 10. Le seul petit problème, c'est qu'ils se sera notifié sur leur Windows. Ils verront sur leur écran en permanence que cette copie n'est pas forcément tout à fait légale, mais ils pourront bien l'utiliser et Microsoft leur proposera de passer à la version légale en achetant une licence, une clé via son store. Voilà ce qui va se passer.
Très bien. Et donc là, on paiera les 119$.
Alors, on ne sait pas si ce sera le même prix. Peut-être que ce sera moins cher. On ne sait pas.
Déstockage piratage.
Exactement.
On verra. Offre spéciale pirate. Ils seraient capables.
C'est possible.
En fait. On enchaîne maintenant avec la WWDC. C'est le grand rendez-vous des développeurs d'Apple. Et ça chauffe, ça se prépare. Hein,
exactement. Ça va être lundi. On suivra ça aussi de près, nous, chez nous, à 01net. On aura quand même quelqu'un là-bas.
Bien sûr. Et même sur 01net TV.
Et sur 01net TV aussi, évidemment. Donc, dispositif spécial. Et il y aura beaucoup d'annonces, sans doute, à cette conférence de développeurs Apple, puisque, bon, évidemment, il y aura la nouvelle version d'iOS, l'OS des smartphones et des tablettes Apple. Il y aura aussi sans doute une nouvelle version de macOS qui va être présentée. Et surtout, Apple, voilà, pourrait se lancer dans sur de nouveaux marchés. Bon, c'est quasiment sûr maintenant qu'il dévoilera un service de musique en streaming. On en a déjà parlé ici. Donc ça, c'est aussi la grosse annonce qui va avoir lieu. Donc, qui devrait s'appeler Apple Music, tout simplement, qui devrait en fait être se baser sur Beats Music, hein, qui a été racheté par Apple l'année dernière, et devrait permettre à tous les utilisateurs d'iPhone d'accéder à un service de type Spotify ou Deezer pour à peu près 10€ par mois.
Très bien.
Voilà. Bon, donc ça c'est les annonces.
Est-ce qu'on peut s'attendre à de grosses surprises ou pas?
Alors, de grosses surprises matérielles, a priori non. Il n'y aurait pas de nouvelle Apple TV, ce qui était plus ou moins dans les cartons. Elle ne serait pas présentée là parce que Apple ne serait pas prêt pour aussi lancer un service, parce qu'ils veulent aussi se lancer sur la télé, hein, les services télévisuels.
Et on sait qu'il faut des années pour passer des accords avec toutes les chaînes de télé.
Exactement. Donc il ne serait pas prêt encore. Donc peut-être une annonce matérielle, mais ça nous étonnerait quand même un peu. Donc ça va être surtout du service et des nouvelles versions de ces logiciels. Mais c'est assez passionnant parce qu'on va aussi voir là où Apple va sur de nouveaux terrains. Par exemple, la domotique, hein, il y aura sûrement des nouvelles par rapport à HomeKit, hein, son système de domotique, et aussi sur la voiture connectée, puisque c'est un peu le nouveau Graal pour toutes les marques de la Silicon Valley, c'est s'emparer maintenant des cerveaux de nos voitures pour ajouter leurs services dans nos voitures.
Voilà, et puis vous parliez de la musique, bien sûr, une annonce qui sera prépondérante, hein, surtout pour les concurrents, hein, les Spotify.
Exactement.
Et Deezer, qui d'un coup vont peut-être se retrouver dans une situation fort, fort inconfortable, parce que voilà, Apple qui arrive sur ce marché de la musique avec par abonnement en streaming.
Exactement, et pas que sur iPhone en plus, ce serait aussi sur Android.
Voilà, sans doute sur Android, ça risque quand même de faire du mal aux Deezer et aux Spotify.
C'est bien possible, exactement. Voilà.
On va suivre ça de près, donc à partir de lundi soir sur 01net.com et 19h sur 01net TV, vous tapez 01nettv.com sur votre navigateur et vous pourrez suivre en direct avec des commentaires, et bien toutes ces annonces liées à la WWDC. On va parler de Skype maintenant. Skype a été victime d'un truc assez étonnant cette semaine.
C'était un bug incroyable. On a déjà eu la semaine dernière, il y avait le bug de l'iPhone, hein, c'est-à-dire vous envoyez un SMS à un contact, ça faisait planter votre iPhone. Là, c'était à peu près pareil avec Skype. On envoyait juste une série de caractères très simples, puisque c'était http://2. Voilà. Il suffit d'une petite erreur dans une adresse web pour que vous vous retrouviez avec.
C'est pas un truc, ça peut arriver.
Voilà. Et en fait, ça faisait planter Skype. Et il était impossible ensuite de redémarrer Skype. C'était juste impossible. Donc en gros, vous envoyez ça à quelqu'un que vous n'aimez pas, et ça lui empêchait d'utiliser Skype définitivement.
D'accord.
C'est alors le seul moyen qu'on avait pour, parce qu'évidemment toutes les conversations Skype sont stockées dans le cloud. Donc si vous vous reconnectez à Skype, Skype télécharge automatiquement.
Ce nouveau HTTP pinchin, et puis ça faisait replanter le truc.
Exactement. Donc Microsoft, heureusement, quel cauchemar. Effectivement, alors, sur les réseaux sociaux, ça a été très vite, ça s'est partagé très vite. Tout le monde a essayé le truc. Il y a eu énormément de problèmes. Microsoft a réagi heureusement très vite. Ils ont poussé une mise à jour de Skype à peu près sur toutes les plateformes, on va dire quelques heures après.
Donc ça c'est quand même fort, hein, de la part de Microsoft.
Ils ont fait assez vite.
D'avoir une veille comme ça des bugs et puis très vite. Avoir des développeurs qui corrigent la faille et qui rebalancent une mise à jour, c'est
exactement.
Et
d'ailleurs, on peut les saluer, sachant que Apple, par rapport à ce SMS de la mort, n'a toujours pas corrigé. On attend toujours une update pour les iPhones pour ce SMS. Bref, mais en tout cas,
c'était à peu près le même système. On en a pas parlé là.
Oui, c'était effectivement. Il suffit toujours d'envoyer un SMS avec des caractères spéciaux, qui des caractères arabes en fait, et ça fait planter un iPhone. Bon, c'est pas très grave parce qu'on peut s'en débarrasser, mais c'est quand même un petit peu gênant d'un point de vue sécurité.
Bien sûr.
Donc la faille est corrigée. Donc maintenant, si vous téléchargez Skype, la dernière version, vous ne l'aurez plus. Mais il n'empêche que ça montre bien que ce genre de problème devient de plus en plus fréquent et qu'il faut vraiment faire attention des fois à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut très bien vite se retrouver avec un message qui vous fait planter un logiciel en quelques secondes, quoi.
Ouais, alors c'est dommage parce que Skype évolue, permet des services maintenant assez étonnants. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, mais si vous êtes un utilisateur de Skype, si par exemple vous correspondez avec un ami étranger, eh bien vous pouvez avoir maintenant une traduction simultanée faite par un robot en quelque sorte, qui va traduire la personne qui est à l'autre bout de Skype.
Exactement. Alors ça marche pas mal. Le seul petit souci, c'est qu'effectivement, bon, c'est comme tous les systèmes de traduction automatique. Des fois, il y a des
incompréhensions.
Mais le système, effectivement,
on comprend le sens malgré tout la discussion.
Effectivement, voilà, qu'on connaît pas du tout la langue en face. C'est
plutôt parce que ça marche avec le chinois, par exemple. Oui, là, d'après ce que j'ai compris. Donc, vous avez un interlocuteur chinois en face qui est sur Skype. Vous appuyez sur un bouton et vous avez sa traduction
en
temps réel.
Ouais.
C'est quand même incroyable.
Ouais. Ouais. Ouais.
Et on se rend compte de la puissance maintenant aujourd'hui du cloud et voilà de ces services. Justement, puisqu'on est dans la puissance, on va y rester, Eric, avec une appli qui est sortie cette semaine et qui justement fait preuve de puissance, une puissance qu'on n'a jamais vue pour tout ce qui est système d'assistance vocale.
Exactement.
En fait.
On connaît déjà Siri sur iPhone, Google Now sur Android ou sur iPhone d'ailleurs, ou Cortana.
Cortana sur Microsoft.
Il va falloir
rappelons ce que c'est. Hein, ce sont des assistants
qui
vous parlent.
Voilà, et ils répondent, ils analysent ce qu'on dit et ils comprennent et en fait ils vous donnent une réponse. Ça va de quelle est la météo à San Francisco,
ou envoyer un SMS,
à quelqu'un, etc. Eh bien, il y a un nouvel acteur qui vient de débarquer après 9 ans de travaux. Ils viennent de le lancer pour l'instant en bêta et sur invitation. Mais voilà, on a déjà les prémices de ce que ça va être. Ça s'appelle Hound. Ce sont les gens qui ont créé SoundHound qui l'ont fabriqué cet outil. Mm-hmm. Et cet outil, la différence par rapport à ce qu'on connaît chez la concurrence, c'est qu'il est extrêmement non seulement rapide dans ses réponses, c'est instantané. Donc c'est-à-dire si vous lui posez une question, il n'y a même pas d'accès serveur ou quasiment pas, vous avez la réponse instantanément et qu'il a une compréhension de ce que vous dites qui est absolument exceptionnelle. Parce que vous pouvez lui poser des questions éminemment complexes et il va vous répondre au quart de tour sans même que vous ayez à attendre quoi que ce soit.
Mais parce que rappelons que ces systèmes style Siri, Google Now, Cortana, etc. fonctionnent avec une connexion Internet et donc il faut, quand on parle, notre voix est analysée, envoyée sur des serveurs qui vont mouliner une réponse et après la renvoyer.
Exactement.
Là, tout se fait sur le smartphone.
Tout se fait sur le smartphone, même s'il y a besoin d'une connexion Internet pour
avoir
certaines
réponses,
évidemment.
Oui, pour répondre à la question, bien sûr.
Mais en l'occurrence, l'analyse de la question se fait au même moment que sa description par l'ordinateur et ça va beaucoup plus vite en fait et c'est vrai que c'est assez bluffant à voir. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir la vidéo de démo de cette technologie où il y a un utilisateur qui lui pose des questions absolument dingues et en fait il répond au quart de tour
à une vitesse folle, c'est incroyable
à toutes les sollicitations.
La voix est un peu hachée, robot, ça fait robot des années 80,
oui tout à fait, mais c'est assez impressionnant à entendre et c'est vrai que là ça sort sur Android, donc ça sort sur invitation sur Android et ce sera bientôt sur iPhone aussi.
Voilà, et pour être impressionné par la démo de cette application, si ça vous intéresse, 01net.com, hein, puisqu'il y a un article qui vous explique comment fonctionne ce système, et il y a une vidéo qui est faite pour vous démontrer que c'est efficace. Merci beaucoup Eric.
Merci.
Eric Le Bourlou, rédacteur en chef du pôle actu de 01net.com, comme chaque samedi à mes côtés dans l'atelier numérique. Alors vous restez là, on va bientôt se dire au revoir, mais auparavant, le crash test d'Antoine Cyr dans un instant. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Nous allons bientôt nous dire au revoir, mais auparavant, bien sûr, le crash test d'Antoine dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est notre rendez-vous depuis l'Asie, c'est le Silicon Zango de Renaud Edouard Barrault.
Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs de l'atelier numérique sur BFM Business. Et bienvenue dans le Silicon Chongo, pastille sonore dédiée au n'importe quoi, mais à partir du moment où le n'importe quoi a un sinogramme correspondant. À ce propos, on pourrait par exemple traduire n'importe quoi par « ferroir ». Ferrois est une heureuse surprise que peut amener l'usage intensif de Google Translate. En effet, les deux caractères pourraient signifier « paroles abandonnées », soit une sorte de « Jiao Tang », « Jiao Ke Li Re Tang Wu » que vous connaissez sans doute sous l'appellation « caramel, bonbon et chocolat ». Et non, je n'aime pas Dalida. En passant, sachez que Dalida se dit aussi « Dalida » en chinois et que ce trio pourrait se comprendre comme « atteindre l'excellence ». Cela se discute fortement, mais je doute que l'atelier numérique soit le lieu pour discuter de l'excellence en matière de variété. Mais passons. Cette semaine, j'ai décidé de tutoyer les hautes sphères. Alors non, pas de point de vue image du monde à attendre de ma part. Je vous remets ça dans le contexte. Je discutais avec Lila Migrawa, qui produit, assemble, agrège, construit en grande partie cette émission, et je lui avouais qu'à mon retour de Chine, j'allais probablement habiter à Montreuil. Ce qui m'a fait penser à la gentrification, soit à l'embourgeoisement. Et je me suis illico demandé comment on parlait de l'embourgeoisement dans la langue de Lao Tzu. Eh bien, il a un terme, c'est Gao Dang Hua, soit de profil élevé.
le bourgeois, cela se dit tsechan, qui est dit soit classe activée. Alors là, bizarrement, j'ai un doute sur la traduction, que dans la société héritée de Mao Zedong, on parle d'un bourgeois comme faisant partie de la classe active, c'est assez étonnant. Heureusement, si on dissèque plus avant les sinogrammes, on obtient capital, propriété, rang, niveau. On s'approche un tout petit peu plus de l'idée que je m'en faisais. Il n'empêche, vu de façon positive ou pas, l'embourgeoisement fait partie intégrante de la transformation des grandes villes chinoises. Je n'ai jamais vu autant de Mao Zedjie, de Lamborghini ou de Falali, soit respectivement Porsche, Lamborghini et Ferrari, que depuis que j'habite ce beau pays communiste. Même à Monaco ou à Dubaï, ils sont totalement distancés, totalement dans les choux. À noter que si l'on décompose Lamborghini, on obtient Rambo et Gini, et que si on va plus loin, on obtient Orchidée Riche Paz Nigeria. En même temps, Ferrari, ce serait tirer bénéfice de la loi ou tirer bénéfice de la France. Tout cela est absolument inintéressant et c'est bien pour cela que je tenais à le partager avec vous. Mais revenons à la gentrification qui fait que les petites boutiques de fruits sont remplacées par des boutiques d'habits, de bijoux plus ou moins stylés. Les riches chinois qui investissent les maisons typiquement shanghaïennes ou se réfugient dans des ensembles luxueux cachés au milieu des laines, tandis que pauvres et vieux sont transférés vers de grands ensembles modernes, loin, très très loin des centres-villes. Les centres commerciaux de luxe proposent leurs ribambelles d'enseignes occidentales et japonaises, les marques moins premium s'agglutinent autour et chassent les artisans et les commerces improbables. Et les consommateurs, eux, se dotent tous de téléphones typés avec des logos de pommes, plutôt que d'investir dans les plus locaux terminaux de Xiaomi, que certains Shanghaïens et certaines Shanghaïennes disent être destinés aux hommes petits, pauvres et moches. Diaose. Oui, trois objectifs bien méprisants sont contenus dans Diaose. En tout cas, parler de téléphone, cela m'aura permis de terminer sur une note digitale sans quoi le contrat n'aurait pas été rempli, ce qui aurait pu me valoir un blâme, soit un guai de Lila Mégrois ou de François de Monaco. Et Tencent, vous allez me dire ? Non, là j'ai pas. On verra la semaine prochaine si j'ai retrouvé mon prétexte. Salut.
Renaud, merci. Et pour terminer cet atelier, donc le crash test d'Antoine. Antoine, la semaine dernière, nous parlions de pressionnisme. Nous étions dans l'art visuel. Et on va continuer toujours, mais cette fois-ci avec un artiste qui, lui, a décidé de créer quelques-unes de ses œuvres sur un outil qu'on utilise, nous, geeks, au quotidien.
Et oui, sur l'iPad. Alors, Cet artiste, c'est pas n'importe qui. Cet artiste, c'est David Hockney, c'est tout simplement l'un des plus grands peintres du monde et l'un des plus authentiques peintres du monde. Quand je veux dire authentique, je veux dire que c'est vraiment quelqu'un qui sait peindre, quoi. C'est quelqu'un qui a une maîtrise de son art.
C'est un technicien de la peinture.
C'est à la fois un artiste et c'est quelqu'un qui a une très très grande maîtrise des couleurs, du dessin, des volumes, etc. Et donc, effectivement, Hockney peint sur iPad et on peut voir d'ailleurs une petite exposition d'une série d'œuvres qu'il a faites récemment sur iPad. Alors il faut savoir que Hockney, c'est un Anglais, mais c'est quelqu'un qui a voyagé dans le monde énormément. C'est quelqu'un qui est associé au mouvement du pop art, donc il a voyagé à New York, en Californie, etc. Et là, il est revenu il y a quelques années dans sa terre nourricière anglaise pour faire une série de tableaux sur iPad qui s'appelle The Arrival of Spring in Waldgate, donc l'arrivée du printemps à Waldgate, c'est dans l'est du Yorkshire, donc la magnifique campagne anglaise. Et donc cette série d'œuvres sur iPad de Hockney est visible à la galerie Le Long Paris, 13 rue de Téhéran, dans le 8e. Et donc Hockney, alors je rappelle quand même qui il est. C'est quelqu'un qui est né dans une famille modeste, qui a fait des études d'art très complètes au Royal College of Art de Londres, et qui se lance dans la peinture et qui est très vite fasciné par Picasso, mais plutôt par les premières périodes de Picasso. Et alors Hockney a une caractéristique physique particulière. Il est atteint de synesthésie. Alors la synesthésie, ça veut dire qu'il voit des couleurs lorsqu'il entend de la musique. Et donc cette
Ah bon ?
Eh oui.
Tiens.
Et donc cette caractéristique va faire de lui un peintre très recherché pour l'élaboration de décors de spectacles, parce que évidemment il a un sens inné des couleurs.
C'est-à-dire qu'il associe très facilement des couleurs à de la musique.
Il a un sens inné de la couleur qui s'associe avec la musique. Et donc il fait de la peinture, il fait du collage. Il a notamment fait des collages au jardin du Luxembourg. Hein, c'est quelqu'un qui a énormément voyagé. Il a peint des autoportraits, des portraits de ses parents, des scènes d'intérieur, etc. Et donc il rencontre Andy Warhol, le roi du pop art en 63. Et petit à petit, il va être aussi célèbre par une série de piscines. C'est quelqu'un qui a peint des piscines. Et donc il est vraiment extrêmement connu. Et donc un jour, il se retrouve confronté, puisqu'il a beaucoup voyagé en Californie, etc. Il se retrouve confronté à cette évolution technologique qu'est le numérique. Alors voilà ce qu'il en dit lorsqu'on l'interroge sur l'art et sur son art. D'abord, lui il dit, contrairement à ce que certains disent, il dit la peinture n'est pas morte. Il dit la peinture est en train de changer de technologie, mais elle n'est pas morte. Et lui il dit c'est plutôt le cinéma et la photographie qui sont plutôt en crise. Alors, il raconte qu'en 1989, on l'a invité au lancement de Photoshop en Californie. C'est intéressant quand même, ouais. Hein, parce que c'est un des plus grands artistes du monde.
C'est étonnant.
Et quand Photoshop, quand Photoshop a créé,
c'est malin,
s'est
part
créé,
de...
ils ont invité Warhol, Hockney, mm-hmm. Ils ont invité Hockney et Hockney est venu. Donc ça montre quand même à quelles altitudes d'ouverture d'esprit ces gens se baladent des deux côtés. C'est-à-dire les gens de Photoshop qui pense à inviter Hockney et Hockney
qui accepte l'invitation et qui se dit tiens je vais essayer d'en tirer quelque chose.
Et là il se souvient d'être sorti de là en se disant ça y est, nous sommes entrés dans une ère nouvelle, il n'y aura plus de Cartier-Bresson, se dit-il. Donc Cartier-Bresson, évidemment, photographe qui immortalise des moments extraordinaires, car il dit qui peut aujourd'hui faire confiance à la photo? On pourrait me montrer en train de serrer la main de Monsieur Sarkozy, dit-il, alors que je ne l'ai jamais rencontré. Voilà.
C'est rigolo l'exemple.
Ouais, bah c'était parce qu'il parlait à ce moment-là, j'imagine, à un journaliste français. Et alors ensuite, quand on lui demande un peu comment sa démarche sur iPad est arrivée, puisqu'on est dans l'atelier numérique, il dit « J'avais coutume de penser que l'ordinateur, puisqu'il était comme ça, Hockney, il cherchait déjà autour de l'ordinateur, était trop lent pour un dessinateur. Vous terminiez une ligne et l'ordinateur avait 15 secondes de retard, ce qui est une absurdité pour un dessinateur. Mais le matériel s'est amélioré et permet désormais de dessiner les couleurs très librement et très rapidement. Toute innovation mise à disposition des artistes comporte des avantages et des inconvénients. Mais la vitesse et les couleurs aujourd'hui disponibles constituent une nouveauté. Travailler à l'huile ou à l'aquarelle, cela prend du temps. » Et donc, il a commencé
C'était
à faire
son nouveau support, l'iPad.
Son support, il a donc fait toute une série de dessins sur iPad, conçus pour une impression numérique agrandie. Et donc la série qu'on peut voir à Paris en ce moment a été réalisée entre le 1er janvier et le 2 juin 2011. C'est pour ça qu'elle montre l'arrivée progressive du printemps. Et donc il est passé par
ce qui est étonnant, je vous coupe Antoine, c'est que c'était le tout début de l'iPad.
Oui, absolument.
L'iPad est arrivé en 2010.
Absolument.
Donc il s'est très vite accaparé.
Oui,
cette...
mais il est passé. Il l'explique hein, dans ses différentes interviews. Il explique qu'il est passé par tous les stades. Hein, il a commencé avec les Polaroids, les dessins sur ordinateur, les photocopieuses, les télécopieurs, etc. Et alors, ce qu'il fait, c'est ce qui est quand même très sympa, c'est que cet homme dont les œuvres peintes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'aquarelles et de collages, etc., de Hockney, qui circulent dans le monde et qui peuvent valoir très cher. Et donc maintenant, Hockney, il s'amuse de temps en temps, quand il y a quelqu'un dont la tête lui revient, il envoie par mail une œuvre sur iPad.
C'est étonnant.
Voilà. Et donc il est en train évidemment de se moquer un peu aussi du marché de l'art. Et il dit...
Oui, parce que là après on peut la multiplier à l'infini. Ouais,
et il dit « Certaines de mes toiles se vendent très cher, mais je réinvestis immédiatement cette somme dans mon travail, dans mes films par exemple, qui ne rapportent rien, parce qu'il fait des films aussi. » merci. L'important, c'est de pouvoir continuer à faire ce qui me plaît.
Et bien voilà, belle conclusion pour ce crash test. Merci Antoine. Antoine Cyr, donc, l'atelier numérique se termine. Merci d'avoir été avec nous pendant ces deux heures. Rendez-vous, bien sûr, le week-end prochain. On sera là 16h-18h sur BFM Business. Salut à tous.